Marc Rastoin, vous êtes jésuite, enseignant au Centre Sèvres à Paris. Tout ce qui touche au judaïsme vous intéresse. Il me semble que le mot est un peu faible. Vous pouvez nous dire un peu plus ?
Alors c'est un peu comme Astérix et Obélix avec Obélix, et on peut dire que moi je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Ben, ça a commencé très très tôt en fait, avec ma sœur, avec ma famille, nous avons grandi près de Paris, à Billancourt. Et à l'époque il y avait un prêtre, en fait trois prêtres diocésains qui tenaient une chapelle, hein, même pas une paroisse entre eux, et qui étaient tous les trois des chercheurs. Lui était linguiste, mais il était très fort en hébreu, en araméen, etc. Et on a fait le catéchisme là, du primaire. Et puis, pourquoi cette année-là, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'à la fin du catéchisme du primaire, il a proposé aux enfants qui finissaient l'étude de l'hébreu. Alors pourquoi nous? Pourquoi cette année-là? Je trouve que c'est une bonne définition de la grâce, c'est-à-dire que tout d'un coup ça vient, c'est là, alors évidemment il faut répondre. Et je serais toujours reconnaissant à mes parents d'avoir dit « bah oui, allez-y, pourquoi pas ?» Et donc ma sœur et moi et 12 autres enfants, on était 14, on a commencé à apprendre l'hébreu pour lire la Bible en hébreu, avec des laïcs qu'il avait lui-même formés. Et donc pendant 10 ans, on a fait de l'hébreu chaque semaine avant la messe. Et assez vite, on a commencé à faire des week-ends jeunes juifs, jeunes chrétiens. On est rentré des amitiés de chrétiennes, les sessions d'Avar, Armand à Bécassis. Donc là, la lecture de Rashi, donc ce grand commentateur juif de la Bible. Donc on lisait le texte et puis on lisait aussi Rashi. Et évidemment, ça m'a fait découvrir la richesse, ça nous a fait découvrir la richesse de la tradition juive, la pertinence, la finesse.
Comment ça s'est continué? Donc l'hébreu, vous arrivez à l'âge de 20 ans.
Alors il y a la question de la vocation qui naît précisément dans ce contexte, c'est-à-dire que c'est vraiment en lisant la Bible, en lisant l'histoire de Samuel, la vocation de Samuel, etc., que la question de la vocation se pose, et que pendant quelques années, je pondère les choses, je suis face à un choix possible, et je prends la décision en fait de dire oui et de devenir jésuite, tout ensemble, au début de ma terminale. Alors pourquoi les jésuites? Pourraient me dire quel rapport avec l'hébreu? Alors il se trouve qu'il y avait un rapport de famille déjà, c'est-à-dire que mon père était un ancien élève, et j'avais croisé un ou deux missionnaires jésuites en Afrique. Alors c'est l'aspect missionnaire universel. C'était l'idée que si l'évangile, si la Bible pouvait toucher des gens extérieurs à la culture judéo-chrétienne, à la culture européenne, à la culture méditerranéenne, c'est qu'il y avait quelque chose de Dieu qui pouvait passer. Pour moi, c'était un argument de crédibilité très important et de pertinence de l'annonce de la foi chrétienne, que l'évangile puisse être entendu, reçu et compris, voilà, par des gens de toutes les cultures.
Vous avez traduit, ou du moins vous avez travaillé aussi un livre dont le titre, je trouve, évoque bien votre parcours, La partition entre le christianisme et le judaïsme.
Alors l'histoire de cette traduction, qui a été essentiellement réalisée par ma mère et par ma sœur, est assez intéressante. Quand je suis à Rome en l'an 2000, je suis inscrit à l'urbanienne. Et donc je ne mets pas les pieds à la grégorienne, ce qui est un peu étonnant pour un jésuite à Rome. Et puis j'apprends qu'un certain Daniel Boyarin, un professeur juif orthodoxe californien, vient faire un cours. Et donc je m'inscris pour ce cours-là à la grégorienne. Donc le seul cours que j'ai suivi à la grégorienne est le cours d'un rabbin orthodoxe. Il y avait d'ailleurs deux étudiantes turques musulmanes dans ce cours. Et d'ailleurs au début il a ri en disant « c'est sans doute le signe que l'ère messianique approche puisqu'un professeur juif peut enseigner à la grégorienne à des élèves chrétiens et musulmans ». Et donc je rencontre Daniel Boyarin à cette époque, on est devenus amis depuis, c'est une personnalité absolument étonnante, etc., qui a beaucoup écrit sur le Talmud et donc sur la naissance du judaïsme et du christianisme. Donc quand le livre sort 4 ans après en anglais, j'en parle à ma mère qui le lit, mais c'est passionnant, j'aimerais le traduire, donc elle commence les étapes pour le traduire. Et en fait, ma mère est morte en janvier, le 15 janvier 2008, et elle avait presque fini la traduction. Et puis le CERF nous a recontactés après, ma sœur et moi, on a fini la traduction, donc elle est à nos trois noms, ce qui est assez beau.
Cécile, Marc et Jacqueline Rastoin.
C'est un livre passionnant, dont on peut bien sûr discuter les thèses, mais qui tend en gros à montrer que les choses ont été beaucoup plus confuses sur le terrain, beaucoup plus complexes pendant très longtemps que ce qu'on a dit d'une espèce de séparation claire et nette à la fin du 1er siècle.
Vous, Marc Rastoin, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Du même sang que notre Seigneur, juif et jésuite, à la naissance de la Compagnie de Jésus ». Un livre tout à fait étonnant par son sujet. C'est donc à l'intérieur même de la Compagnie de Jésus que l'on retrouve des juifs convertis et un peu mis de côté.
Qui vont avoir une grande histoire de succès et de reconnaissance, puis être mis de côté. J'ai découvert vraiment cet aspect-là qui est relativement peu connu, c'est-à-dire qu'une bonne partie des premiers jésuites, et notamment des premiers professeurs, des premiers prêtres qui ont enseigné à Rome, étaient d'origine juive, parce que, en gros, il y a eu 30 années d'acceptation et de succès, hein, 1540-1570, et puis 20 années qui vont conduire à l'exclusion. Hein, l'exclusion est votée en 1593, à la 5e Congrégation Générale, toute personne d'origine juive ou musulmane ne peut plus rentrer dans la compagnie. La compagnie adopte ce qu'on appelle en Espagne les lois de limpieza de sangre, de pureté de sang, qui interdisent aux descendants des convertis, quelle que soit la génération, d'entrer dans la vie religieuse.
Et au début, pourtant, donc,
alors
des professeurs...
Alors au début, Ignace s'est montré très accueillant. Et puis le fait que l'un des premiers compagnons, celui qui va lui succéder, que nous allons célébrer cette année, en 2012, son cinquième centenaire, Diego Lainez, qui sera le deuxième général de la compagnie, était d'origine conversa. Et Ignace avait une très grande estime pour lui. Et tous ces juifs conversos, souvent de grandes familles bourgeoises des grandes villes, qui étaient bloqués dans la plupart des ordres religieux, presque tous, qui étaient bloqués aussi souvent au niveau civil, mais dont beaucoup, la plupart, étaient des chrétiens tout à fait sincères. Où pouvaient-ils entrer? Ils avaient une aspiration universelle à servir l'Église, un attachement au Christ, souvent. Dans plusieurs familles, ils étaient plusieurs religieux. Et donc ces gens-là, ils étaient dans les villes universitaires d'Alcalá et de Salamanque, et là, ils ont rencontré les jésuites, qui leur offraient une spiritualité et un horizon, un espace détaché, j'allais dire, des étroitesses du point d'honneur, comme dirait Thérèse d'Avila, les étroitesses des villes espagnoles avec ces suppositions, ces rumeurs sur l'un ou sur l'autre. Ignace les a accueillis et ils ont été à la fois du côté des professeurs du Collège romain et puis du côté des missionnaires. Il y en avait beaucoup en Inde, beaucoup en Chine et au Japon qui sont partis justement dans des endroits où l'on pouvait espérer que cette question ne serait pas importante, mais malheureusement ils vont être rattrapés par cela. L'Inquisition va arriver à Goa, il va y avoir des cas de maranisme et même de grands jésuites italiens comme Valignano, comme Matteo Ricci, dont on parle beaucoup en ce moment, écrivent à Rome en disant « Arrêtez de nous envoyer des juifs, pour les Portugais nous sommes un ordre de juifs, il y en a trop dans les nouveaux arrivés. » Et donc à un moment donné, ils ne pouvaient plus aller nulle part, c'est-à-dire qu'en Espagne on disait « Non, il ne faut pas qu'ils rentrent », dans les missions ils ne pouvaient plus. Et puis est né un mouvement d'hostilité à leur égard, mené par les Portugais et par, en partie, les Italiens, qui en avaient assez des supérieurs conversos espagnols. Et cela aboutit donc à cette funeste décision de 1593 de les exclure définitivement de la compagnie. Décision qui n'a été définitivement abolie qu'en 1946. Il n'y a pas beaucoup à commenter l'année de cette suppression. Donc ça a été une très très belle aventure évangélique pendant 50 ans. Et c'est l'un des points majeurs sur lequel il y a eu trahison, vraiment, de l'esprit du fondateur, dont la pensée était extrêmement claire sur la question, on en a des sources abondantes, et voilà, qui a été trahi par un souci d'accommodement avec l'humeur nationale, comme disait Lainez, l'esprit ibérique, qui est le signe un petit peu d'une capitulation sur un point quand même essentiel de l'esprit jésuite, c'est qu'un homme, quelle que soit son origine, du moment qu'il a un attachement sincère au Christ, du moment qu'il a les capacités, peut servir le Christ et peut être jésuite.
Qu'est-ce que vous avez ressorti de ce livre? J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand même à trouver toutes ces sources, toutes ces perspectives historiques. On ne peut pas écrire un livre comme ça en étant soi-même jésuite sans être un peu bouleversé.
Disons, c'est un travail de vérité qui me tenait à cœur. C'est aussi une promesse que j'avais faite à ma mère parce que j'avais fait plusieurs articles avant sur la question. Elle m'avait dit, c'est un sujet, tu devrais faire un livre. Je me suis dit, in fine, elle a raison. Alors, je ne suis pas le seul à travailler ça, hein, parce que beaucoup de choses que je dis dans le livre, soit ne sont pas nouvelles, soit ont été dites avant, mais alors dans d'obscures revues, dans des langues moins... Donc, disons, ce n'est pas que j'ai fait une découverte, je ne le savais pas avant, c'est-à-dire que j'avais lu la couture, je connaissais l'existence de la présence des conversos, je savais qu'ils avaient été exclus en trahison avec l'esprit du fondateur. Ce que j'ai vraiment découvert en faisant le livre, c'est que, d'abord, l'ampleur de leur présence dans la compagnie, le rôle très important qu'ils y ont tenu, et le fait que la question de leur acceptation ou de leur refus a été au centre des 5 premières congrégations générales. Et ça ne se trouve pas dans les actuelles histoires de la compagnie.
Alors, Marc Rastoin, dans votre partition entre christianisme et judaïsme, comment est-ce que ce livre, aujourd'hui, affine vos perspectives ou bien donne des éléments dans cette vocation que vous avez quand même dans le dialogue judéo-chrétien?
Disons, pour moi, c'est d'abord un travail de vérité. Ensuite, je suis convaincu de l'importance de ce dialogue, mais j'irai même plus loin, c'est-à-dire que une de mes convictions de fond, c'est qu'il y a encore tout un chemin pour que le peuple catholique, le peuple chrétien, soit intimement convaincu que la présence du judaïsme vivant aujourd'hui est une bénédiction, est une grâce, est un don de Dieu. Et cela passe par la redécouverte de la pertinence des chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Cette présence d'Israël est le signe de la fidélité de Dieu à ses propres promesses. Et si Dieu est fidèle à Israël, malgré tout ce qui s'est produit dans l'histoire, eh bien qu'il peut aussi être fidèle à nous, malgré tout ce que l'Église, malgré tout ce que nous avons pu traverser et vivre dans l'histoire, que Dieu restera fidèle à ses promesses.
Marc Rastoin, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire un verset de la Bible en hébreu qui vous tient à cœur et qui pourrait être une partition ou une synthèse de tout ce que vous portez?
Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces.